Je l'ai au bout du fil avec moi, Raymond Côté, qui nous parle de politique états-unienne. Bonjour, Raymond.
Ben oui, bonjour, Caroline.
Quelle semaine mouvementée aux États-Unis. On va parler, je dis, de la politique, mais on va parler, bien sûr, de la crise et de l'analyse de scénario là-bas, là, de cette pandémie, en lien aussi avec les prix du pétrole et tout ça. Plein de sujets, Raymond, et on n'en manque pas. Monsieur Trump, cette semaine, qui a, on l'a vu en début de semaine, un peu changé son fusil d'épaule. Là, le discours a changé un peu, là.
Oui, tout à fait. Puis ça semble être la confrontation avec la réalité, surtout la réalité électorale qui l'a forcé à justement passer son arme d'un autre côté. Ouais. En fait, c'est ça, là, c'était assez fascinant. Il y a d'ailleurs un beau billet de Richard Etu là-dessus qui semble indiquer que par rapport aux questions là, de la perception de la population, dans la population américaine, les gens sont prêts à accepter de perdre leur job en autant que ça puisse combattre les effets là, de la propagation de la COVID-19. Ça pourrait expliquer le geste du président.
OK. Parce que j'avais l'impression, moi, qu'il y avait des sondages, justement, qui le donnaient... Enfin, certains semblent dire que sa cote de popularité avait jamais été aussi élevée depuis cette crise-là.
Oui, ça, c'est un autre aspect, en effet. Et ça, c'est quelque chose qui est pas très surprenant en temps de crise, hein? Les gens sont inquiets. En fait, en temps de crise, en fin de compte, il faut comprendre que y a, sans faire de la psychologie, là, à deux sous, il y a une perte de repère, hein?
Oui.
Là, actuellement, les gens, massivement, ont été mis au chômage, là, ici au Québec. Aux États-Unis, c'est moins vrai, sauf qu'on voit, justement, là, dans certains États, il y a eu l'État de Washington, mais là, maintenant, l'État de New York, où il y a une perte de contrôle à peu près totale.
Ouais, ouais.
Andrew Cuomo, le gouverneur, fait aussi ses points de presse quotidiens. C'est moins divertissant puis, que ceux ici au Québec, disons.
Oui, c'est plutôt alarmant.
Au Québec. C'est ça. Mais quand on regarde, quand on fait la comparaison, justement, avec ce qui se passe au Québec, tu as peut-être vu passer ça, la cote de popularité, en fait, l'approbation des actions de M. Legault a atteint des sommets que je qualifierais presque de staliniens. Donc, écoute, l'approbation est plus de 90% là, pour un politicien, là, c'est très rare.
Oui, vraiment, on lui souhaite des élections bientôt, mais ça
ben,
sera pas...
ouais, c'est ça.
Le problème, c'est qu'on va...
Majoritaire.
Ça va finir un jour, puis on va retomber les deux pieds dans l'économie bien traditionnelle. On verra. Mais pour ce qui est des États-Unis, justement, l'économie, le pétrole, tout ça, ça fluctue beaucoup, là. Et qu'en est-il là, de ce côté-là avec toutes ces fluctuations de pétrole aussi bas que ça?
Bien, là, c'est sûr que pour l'industrie pétrolière américaine, que ce soit le pétrole de schiste, le pétrole offshore, le pétrole traditionnel, en tout cas le peu qui reste, ce qu'on appelle le pétrole par jaillissement, c'est un moment difficile à passer. Remarque que les prix américains restent quand même relativement plus élevés que, par exemple, pour le pétrole canadien. En fait, c'est fascinant là, de voir ça évoluer. Pour les Américains, leur industrie pétrolière là, se retrouve à vivre une menace réelle si ça se prolonge. C'est ce qui explique d'ailleurs le fameux entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine, là, à la fois pour combattre la pandémie, puis la Russie a offert son aide aux États-Unis que M. Trump a accepté, mais aussi pour discuter de ce mouvement des prix du pétrole, hein, cette lutte. Qui semble être une lutte à finir entre les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'a pas été inclue dans cette conversation.
Non, et pourtant, oui.
Oui, on peut se poser la question si ça aurait été peut-être plus utile d'inclure l'Arabie saoudite. Parce qu'il faut dire, ça je l'ai déjà expliqué, l'Arabie saoudite se retrouve, après avoir dominé le marché dans les années 70-80, on se souvient des grands chocs pétroliers hein, de 73 puis au début des années 80. L'Arabie saoudite, maintenant, se retrouve, en fait, à vivre une marginalisation, mais je mets ça entre guillemets, là, dans le sens où elle est simplement un des acteurs majeurs du marché. Elle n'est plus l'acteur majeur là, qu'elle pouvait être auparavant. Donc, pour l'Arabie saoudite, le vrai problème... dans le cadre des travaux de l'OPEP, là, vraiment le PEP a perdu l'aura puis l'influence qu'il avait, par exemple, dans les années 70, quand il y avait eu le premier choc pétrolier, hein, qui avait permis aux membres de le PEP d'avoir des revenus beaucoup plus élevés du pétrole. Mais maintenant, le PEP est un acteur qui n'est même plus majoritaire. Là, quand on parle strictement des membres, il y a trop d'autres pays impliqués et en premier lieu, évidemment, les États-Unis et la Russie. Parce que là, maintenant, c'est les États-Unis qui sont le premier producteur mondial, suivi de l'Arabie saoudite et suivi de la Russie. Puis ils sont tous les trois dans à peu près les mêmes proportions, là, ou en tout cas des volumes de production à peu près équivalents là, à quelques centaines de milliers là, de barils de pétrole quotidiens. Alors, dans ce cas-là, évidemment, le fait que les Russes puis que les Américains se parlent peut avoir un certain intérêt, sauf que c'est la Russie et les États-Unis qui refusent de baisser leur production. Eux, ils la maintiennent à leur gré. Et l'Arabie saoudite, qui s'était retrouvée souvent à limiter sa production en coordination avec les autres membres de l'OPEP, refuse maintenant de jouer ce jeu-là, d'être le seul à faire un effort en réduisant sa production.
Ouais.
Alors,
c'est donnant-donnant dans ces affaires-là. C'est souvent dans un jeu de donnant-donnant. Mais le lien avec la pandémie, d'ailleurs, je fais une parenthèse, Raymond, mais la situation pandémique en Russie, on en entend peu parler. Est-ce parce qu'ils ne sont pas touchés? Est-ce parce qu'il y a beaucoup de contrôle et de censure?
Bien, en fait, il y avait visiblement une négation du phénomène durant un certain temps. Maintenant, c'est admis. Là, je voyais encore dernièrement que Moscou applique des mesures strictes là, de confinement. Là, c'est imposé aux moscovites. Mais visiblement, la Russie a été en retard. En fait, il y avait un phénomène assez désolant, justement, du contrôle de l'information, un peu comme la Chine avait fait lors de la crise du SRAS. Donc, là, maintenant, confronté à la réalité, visiblement, le régime de Vladimir Poutine admet qu'ils sont touchés à leur tour. On n'a probablement pas les vrais chiffres. En fait, on peut même se demander si la Russie a les infrastructures pour faire face à la crise.
De toute façon, oui.
Ce qui rend assez ironique là, l'offre d'aide de la Russie aux États-Unis, là, parce que probablement que la Russie aurait plus besoin d'aide que les États-Unis, ou en tout cas potentiellement. Ça ressemble un petit peu, tu as vu la petite controverse là, des équipements là, de protection canadiens qui avaient été envoyés en Chine.
Oui.
Probablement que la Russie va faire face au même problème. C'est-à-dire qu'ils offrent une aide alors qu'eux-mêmes auraient besoin de maintenir leurs réserves, puis surtout leur personnel prêt à intervenir. Puis probablement, parce que le gros problème, c'est que actuellement en Russie, la propagation serait en cours, mais on n'est pas capable d'en mesurer l'ampleur parce qu'il y aurait une censure très lourde là-dessus, malheureusement.
Ouais, ben on connaît la chanson. Là, on parle même en Chine qu'il y aurait beaucoup plus de morts que ceux qui ont été déclarés. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais on comprend le processus. Là. Revenons au pétrole et au scénario financier des résultats de cette pandémie-là. Est-ce qu'on a un scénario? Comment cette crise-là va affecter l'industrie? Est-ce qu'il y a des pronostics qui se dessinent?
Bien, en fait, là, c'est très difficile de voir ça. Hein. Je t'avais transmis, entre autres, hier, les perspectives de l'OCDE pour l'ensemble de ses pays membres, puis particulièrement aux membres du G7, incluant les États-Unis. Hein.
Ouais.
On peut dire que l'industrie pétrolière minière est celle qui, actuellement, en tout cas, les ressources naturelles sont affectées, mais dans une moindre proportion que d'autres secteurs de l'activité économique. On pourrait faire la comparaison avec le tourisme, où là, tout est fermé, ou pratiquement.
Mm-hmm.
La restauration, en tout cas, bref, là où les impacts sont majeurs. Le vrai problème, puis ça, c'est ce que signale l'OCDE, d'ailleurs, c'est très bien formulé, c'est que là, il y a un impact immédiat. Hein. En fait, les chiffres de déclin de l'activité économique là sont très impressionnants. Ils varient de à peu près moins 25% à moins 30% là, pour la période de recul. Donc, ça va être cette année. Sur l'ensemble de l'année, ça sera pas ça là, au total, parce que une fois qu'on aura dépassé les pics de progression, qu'on va que la pandémie va se résorber, en espérant que ça se résorbe assez vite, ça, c'est, on peut probablement pas compter là-dessus. Il va y avoir une certaine certaine reprise des activités, hein, progressivement, fin de l'été, probablement plus l'automne, puis l'hiver prochain. Donc, pour l'année 2020, on oublie ça. On va être vraiment en recul pour ce qui est du produit intérieur brut, là, majeur. Les activités vont avoir été en pause totale ou partielle très largement. Pour en revenir aux ressources naturelles, puis particulièrement au pétrole, le vrai danger semble être l'après-pandémie, c'est-à-dire la reprise de l'activité économique qui est très hasardeuse. En fait, même l'OCDE n'ose pas vraiment se prononcer. Il parle d'effets, des effets consécutifs qui pourraient être importants. Et c'est là où, justement, on pourrait se retrouver à voir, bon, premièrement, il est à prévoir, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, là, il y a déjà des mises à pied massives, hein, ça c'est déjà en cours, mais la reprise d'activité va se faire probablement graduellement, donc le chômage pourrait s'étirer très longtemps, peut-être même un chômage élevé sur des années. Et c'est là où le danger pour l'industrie pétrolière est très élevé, c'est que là, même si l'Arabie Saoudite relâche la pression, prenons ce scénario-là, ou que aux États-Unis, l'activité de prospection, d'exploitation pétrolière ralentit, probablement que même si la production se met à descendre, enfin, ça sera même pas suffisant pour soutenir une hausse des prix en raison là, du ralentissement économique, du chômage massif, des faillites en cascade. Donc, là, on a le choc immédiat qui va être brutal, beaucoup plus brutal qu'en 2008, c'est ce que dit l'OCDE. Mais c'est les conséquences qui sont très difficiles à mesurer puis qui sont potentiellement effrayantes. En tout cas, j'espère que votre café est bon ce matin, là, qui va vous redonner un petit peu de tonus, là, mais là, c'est la grande inconnue, puis c'est ça qui va être observé très, très attentivement une fois qu'on aura dépassé là, les pics de pandémie. Pis ça, c'est sans compter aussi le fait que la pandémie, on l'a vu, s'est répandue par différentes étapes à travers le monde. Hein. On parlait de la Russie, on pourrait parler du continent africain. La pandémie touche le continent africain, mais ils n'ont pas les mêmes moyens, puis on ne sait pas combien de temps ça va s'étirer dans leur cas.
Et l'Amérique du Sud aussi, là. Enfin, je lisais ce matin que Bolsonaro venait de réaliser qu'il y avait une pandémie, là. Il semblerait qu'il y a des pays qui se réveillent, là, mais avec les moyens qu'ils ont aussi, c'est pas toujours évident.
Absolument, absolument. Alors ça aussi, dans le fond, ça va étirer la sauce, en quelque sorte, une sauce qui a vraiment pas bon goût, et ça aura des effets aussi multiplicateurs, là, potentiels, parce que ces pays-là, bon, en fonction de l'évolution de la situation, vont subir des contre-coups énormes. Là, les États-Unis, le vrai problème, c'est que le pic de pandémie va arriver relativement vite, mettons ça encore entre guillemets, mais ça va être probablement justement là fin avril, en tout cas avant la mi-avril, ça serait surprenant qu'on atteigne ce pic-là, puis ça monte tellement vite que eux, l'effet va être beaucoup plus massif qu'au Canada. Donc, les contre-coûts pour les entreprises, pour les employés, pour les simples citoyens, pourraient être très, très graves, là, avec la peur qui s'installe à demeure, puis bref, puis écoute, t'as peut-être entendu parler justement de la prise d'assaut des magasins de fourniture d'armes, là. Encore là, la situation
autre phénomène
crise,
étrange, les... ben oui.
Ben oui, c'est ça, les gens cherchent à se protéger, pensent au pire, et on n'est peut-être même pas justement dans ce mouvement-là de penser au pire. On n'est probablement pas au sommet de l'ampleur de ce mouvement-là. Ça pourrait probablement empirer à mesure que les mauvaises nouvelles vont s'accumuler, là, que ça soit plus que l'État de New York, là, qui est en situation de crise, là, mais que ça se répand à travers le territoire et que finalement, il y a des pertes de contrôle dans la majorité des 50 États américains. Là.
Raymond, je propose une mini-pause, puis on va continuer à s'en parler. Juste question de digérer tout ça, prendre une bonne gorgée de café fort et puis se retrouver après.
Excellent.
Avec le sourire, on lâche pas. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'antenne des Matins éphémères et on est en compagnie de Raymond Côté. On fait le point sur la situation économique, évidemment en lien avec la crise, la situation aussi aux États-Unis. Raymond, rebonjour.
Ben oui, rebonjour Caroline.
Raymond, j'aurais envie de commencer cette deuxième portion de chronique avec peut-être le positif dans tout ça. Si le pétrole continue à baisser comme ça, les effets positifs, est-ce que ce serait pas l'environnement? Est-ce qu'il n'y aura pas... Cherchons un peu de lumière dans ce tunnel sombre et profond.
Ben, écoute, je suis très mitigé là-dessus.
Bon,
je voyais des gens se réjouir de voir la chute de la production pétrolière. Le fait que les sables bitumineux canadiens étaient menacés largement par rapport à ça, moi, je mets un gros bémol là-dessus. Premier problème, évidemment, la baisse massive des prix du pétrole fait que l'électrification des transports pourrait faire face à un problème majeur. Ça, c'est la première chose, que ce soit le transport individuel comme collectif. Parce qu'évidemment, il y a toujours des questions de coûts de revient. Puis dans le cadre d'une récession, en plus, les projets de déploiement et d'infrastructures de ce genre-là peuvent être ralentis ou remis en question. Évidemment, l'approche des gouvernements va être... ils auront pratiquement pas le choix là, dans les conditions actuelles. Ça va être d'investir massivement, justement, pour entre autres dans les infrastructures, mettre en place des choses. Mais il y a aussi une question de moyens. Et l'autre chose, bien, du côté du ce qu'on pourrait appeler le lobby pétrolier, encore là, on met ça entre guillemets, eux, ils vont chercher à survivre. D'ailleurs, on voit déjà le gouvernement canadien se positionner en mode aide de l'industrie de la production là, pétrolière, particulièrement albertaine, mais aussi saskatchewanaise puis terre-neuvienne. Parce que, évidemment, on peut penser simplement à l'Alberta. Voir l'Alberta chuter aussi dramatiquement, ça rend service à personne. L'autre problème, c'est que je vois, c'est évidemment, c'est dans la consommation du pétrole. La consommation a déjà baissé énormément, va probablement rester basse, elle va remonter, là, ça, il faut s'y attendre à mesure qu'on va avoir dépassé le choc actuel. Mais elle ne remontera pas tant que ça. Premièrement, évidemment, chômage massif, les problèmes individuels et collectifs qu'on va vivre. Toute la question aussi, évidemment, de la reprise industrielle qui ne permettra pas une augmentation très importante de la consommation pétrolière. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout le problème de la lutte là à finir sur les marchés mondiaux. Le Canada, de ce point de vue-là, est très vulnérable parce que son pétrole est exporté massivement aux États-Unis et le secteur pétrolier canadien risque de faire face aux mêmes problèmes que l'industrie du bois d'œuvre. C'est-à-dire que les producteurs américains vont probablement se mobiliser pour défendre leur part de marché et demander qu'on importe moins de pétrole cheap canadien. Là, fin de compte. Ce qui est aussi, ce qui va être un deuxième coup dur, là, parce que les moyens d'exportation en dehors des États-Unis sont quand même assez limités. Hein. On se souvient de tout le débat là, sur l'énergie. Et là, ben, ça amènerait toutes sortes de conséquences pour les particuliers qui sont au chômage ou dans une situation de travail précaire. Au lieu de renouveler leur automobile, d'envisager d'acheter une voiture hybride ou carrément électrique, d'endurer leur bazou, de l'étirer, puis d'avoir de plus en plus de misère à l'entretenir. Donc, de garder une voiture qui est énergivore, qui va être de plus en plus énergivore à mesure que l'entretien va être précaire et de plus en plus polluante aussi. Ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle potentiellement, là. Évidemment, là, tu l'as vu peut-être, là, les prix à la pompe ont baissé déjà massivement, pas autant que peut-être que les gens auraient pu l'espérer par rapport à la baisse du baril de pétrole, mais pas sûr que ça rend service à l'environnement. Moi, je me laisserais du temps pour observer les mouvements, là, puis voir si jamais, ouais, si on arrive à quelque chose qui pourrait être satisfaisant. Mais là, c'est ça, on a une perte de moyens potentielle là, qui est massive et qui pourrait entraîner des conséquences qui pourraient être désagréables ou même nuisibles à l'environnement.
Oui. Bon, alors, mais revenons aux États-Unis. Partout où je lisais un article dans Le Monde qui parlait de panne de leadership, on voit que comment la perception d'autres pays sur les États-Unis, on parle de... Bon, et je pense que l'article en question résume bien, panne de leadership, puis on cite des endroits. Là, il y a New York qui est touché de plein fouet, mais Chicago, si je ne m'abuse, aussi Détroit, encore une fois, qui est touché beaucoup. Est-ce qu'on peut supposer que les États-Unis vont encore développer cette espèce espèce de réflexe qu'ils ont de se refermer sur eux. Comment, d'un point de vue international, tout ça, cette crise-là va affecter les relations internationales et le commerce international?
Mais ça, c'est une très bonne question, en effet. Les États-Unis sont quand même passablement dépendants du commerce mondial, eux aussi. À la fois parce qu'ils exportent beaucoup, parce qu'ils interviennent beaucoup, ils investissent sur les marchés mondiaux. C'est encore des grands meneurs en termes d'investissement. Si on parle beaucoup de commerce international en pensant à des marchandises, mais on oublie tout le marché des capitaux hein, qui transitent les les États-Unis sont encore dans une position dominante. Oui, il y a des conséquences probables à prévoir. Ça, évidemment, encore là, de la même manière que le choc actuel direct qu'on subit, c'est assez difficile d'évaluer les conséquences. Est-ce qu'on pourrait parler d'un nouvel ordre mondial? Peut-être, mais je m'emballerais peut-être pas tant que ça. J'ai l'impression que le premier réflexe, ça va être un réflexe du genre business as usual, c'est-à-dire de retourner dans nos vieilles habitudes pour essayer de reprendre pied. Je sais pas si tu vois un petit peu, là.
Ben, tout à fait, ben oui. Oui,
oui. C'est dans le fond. On pourrait penser, par exemple, à l'Australie, hein, qui a développé massivement ses mines de charbon, puis le gouvernement actuel, malgré les incendies massifs, a refusé de remettre en question cette industrie-là qui contribue énormément au gaz à effet de serre. On risque de voir mondialement un peu le même problème, c'est-à-dire que pour reprendre pied, pour redémarrer l'activité économique, qu'on choisisse des filières traditionnelles dans lesquelles on donne un soutien direct ou qu'on favorise, en fin de compte, de différentes manières. De ce point de vue-là, les États-Unis, par contre, la perte de leadership était déjà patente avant le début de la pandémie. Ça va probablement se confirmer. D'ailleurs, si on en parlait en début d'émission, hein, le taux d'approbation du travail de Donald Trump s'est beaucoup amélioré dans les derniers jours. Il y a encore une désapprobation plus élevée dans son cas que l'approbation, mais pour la première fois depuis 2 ans, le taux de désapprobation de son travail est tombé en bas de 50%, ce qui est quand même énorme. Le taux d'approbation a approché les 48 % là, a monté pour la première fois depuis 2 ans à 47 % bon, là, ça va être de voir si ça va durer le temps d'une chanson ou si ça va persister, donc si ça va avoir un effet sur les élections présidentielles. Encore là, il n'y a pas de remise en question, à ma connaissance, du vote là, de l'élection présidentielle en novembre. On verra là, en fonction de l'évolution de la crise s'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait être fait là, pour déplacer cette élection-là présidentielle. Mais incontestablement, les États-Unis paraissent très, très mal. Et quand ils vont atteindre leur pic avec des chiffres que je prévois monstrueux, dans le cadre de la pandémie, puis que les États-Unis vont être déclarés comme étant foyer de pandémie, là, c'est peut-être même déjà fait par l'Organisation mondiale de la santé.
Ça va vite, oui.
Tout va très vite. Probablement que les États-Unis vont avoir une tâche majeure à leur dossier, là, qu'ils vont avoir beaucoup de misère à se débarrasser. Donc, la perte de leadership, là, m'apparaît potentiellement réelle, là.
Oui, on verra. Raymond, juste en terminant un mot là, sur la situation géographique et pandémique aux États-Unis, on voit que c'est pour nous, en tout cas ce qu'on voit en premier lieu, c'est New York qui est le plus durement touché, mais est-ce qu'il y a d'autres foyers d'éclosion? Je pense à la Floride qui est quand même un lieu où on avait nos snowbirds qui remontent doucement, là, qui remontent tranquillement, mais est-ce qu'il y a d'autres foyers? La Californie semble moins touchée peut-être ou...
C'est en train de prendre l'ampleur en Californie, d'après les informations que je voyais. Là, j'ai pas fouillé ça énormément. Écoute, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les médias sociaux. Je connais à plein de monde. Mais je voyais qu'il y avait aussi, en tout cas, encore là, la politique partisane garde toujours son importance. Je voyais
c'est terrible,
qu'il y avait
en temps de crise, quand même. Je trouve que, hein? Je trouve quand même que la politique partisane est très importante encore aux États-Unis, alors que nous, ici, j'ai l'impression que tout le monde est rallié derrière M. Legault pour combattre ça. J'ai pas l'impression que la situation aux États-Unis est la même, là. On sent encore les démocrates, les républicains, chacun de leur côté qui tirent la couverte. Il y a quelque chose d'assez surréaliste dans cette situation-là.
Ouais, mais le problème peut-être des partis d'opposition au Québec, c'est qu'ils sont tétanisés par la peur d'attaquer ce qui est devenu une icône, le rock sur lequel la population s'appuie au Québec. Là. Ça, c'est une autre chose.
Oui, il y a peut-être un peu de ça.
Mais aux États-Unis, je voyais une publication Twitter où quelqu'un soulignait que les taux d'augmentation de l'éclosion là, de la pandémie état par état était beaucoup plus élevé dans les états dirigés par les républicains. Bon, écoute, ça fait partie de l'ordre des choses là, que ça fasse l'objet de discussion. Une chose est certaine, je voyais encore, ça c'était au Canada, il y avait aussi un sondage comme quoi c'était chez les conservateurs où le scepticisme vis-à-vis de la réalité de la pandémie était beaucoup plus élevé. Ça semble être le cas aussi aux États-Unis, on l'a vu avec les ultra-conservateurs hein, qui... carrément disent non, la priorité c'est l'économie là on n'arrêtera pas là de vivre là pour une simple grippe là. En tout cas, toutes sortes de choses terribles là, qui se passent, mais du côté des États-Unis il y a vraiment un problème parce que premièrement l'effort est très très dispersé, puis il y a aussi des pans, c'est des dizaines de millions d'Américains qui sont très vulnérables à la fois au choc économique, mais surtout au choc direct là, à la possibilité de contagion et d'être totalement démunis en tombant malade là, parce qu'ils n'ont même pas les moyens d'être hospitalisés. Et ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de proposition suffisante là, qui a été présenté autant par l'administration Trump que localement, en tout cas, à ma connaissance. Là. Les États-Unis se font piéger par leur système encore largement privé, là, qui prive justement, sans faire un mauvais jeu de mots, une partie de la population à un accès simple à des soins de santé.
Ben, on va suivre la situation de près. Raymond, c'est nos voisins quand même. Hein? On a une très longue frontière avec lui. En tout cas, il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Il n'y a pas eu l'armée. Finalement, on n'a pas eu l'armée aux frontières. Puis finalement, M. Trump ne va pas repartir la machine économique à Pâques, mais plutôt à la fin avril. Là. Puis après, on verra. Mais ça a bougé beaucoup cette semaine. Puis j'ai l'impression que d'ici la semaine prochaine, il y aura encore beaucoup de choses. Bon, espérons qu'il y aura un peu de positif, là, mais bon, on garde le cap. Merci, Raymond.
Eh oui, on se croise les doigts, gardez le moral.